Inter, le 18-20.
Depuis lundi 1er janvier 2018, 11 vaccins deviennent obligatoires pour les enfants nés à partir de ce jour. Ils devront les avoir reçus pour être admis dans les crèches, garderies et écoles. Un durcissement de la loi pour faire face à la résurgence de certaines maladies. Jusqu'à présent, seuls 3 étaient obligatoires. Diphtérie, tétanos, poliomyélite. Et là, désormais, il y en a 8 autres. Coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite B, méningite, pneumocoque et méningocoque. Mais voilà. Cette décision suscite les critiques des opposants à la vaccination qui dénoncent sa dangerosité supposée. Au pays de Louis Pasteur, les sondages montrent que la France serait le pays où le doute sur la vaccination est le plus fort au monde. Selon une étude de Santé publique France citée par le quotidien Le Monde il y a quelques jours, en 2016, près d'un quart des Français, 24,7%, se disent plutôt pas ou pas du tout favorables à la vaccination. Il n'était que 8% en 2000. Comment expliquer cette défiance, ce soupçon? Nous attendons vos questions, vos témoignages au standard 01 45 24 7000 et sur le site franceinter.fr. Pour vous répondre ce soir, le professeur Alain Fischer, professeur d'immunologie pédiatrique, chercheur en biologie. Il a présidé en 2016 le comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. En duplex à Valence, dans les studios de nos amis de France Bleu Drôme Ardèche, Lise Barnéou, elle est journaliste scientifique. Elle a publié « Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins ». C'est paru l'année dernière aux éditions Premier Parallèle. Et puis, avec moi dans ce studio, Véronique Julia, qui est spécialiste des questions de santé à la rédaction de France Inter.
Le 18-20, Pierre Veil. Le téléphone sonne.
Oh, déjà beaucoup d'appels et puis des courriels. On va retrouver Raphaël en Dordogne. Bonsoir Raphaël.
Oui, bonsoir.
Vous vouliez interroger nos invités. Allez-y, c'est le moment.
Oui, merci. Je voulais poser une question concernant le groupement de ces vaccins. Avant cette nouvelle obligation, c'était déjà difficile de trouver, par exemple, un DTP tout seul. Et donc, étant donné qu'on sait qu'il peut y avoir des risques à multiplier les vaccins les uns sur les autres, est-ce qu'on sait s'il sera possible de les dégrouper, ces 11 vaccins obligatoires?
Professeur Alain Fischer, bonsoir. Bonsoir. Vous répondez à Raphaël.
Oui, donc la première chose à rappeler, bien évidemment, c'est que les 11 vaccins devenus obligatoires sont des vaccins qui sont aujourd'hui, hier, administrés à 75 jusqu'à presque 80% des enfants. Donc il n'y a pas demande de vaccins supplémentaires. Le souhait, pour des raisons de santé publique sur lesquelles nous reviendrons certainement, est que l'ensemble ou la quasi-totalité des jeunes enfants soient protégés contre ces 11 vaccins déjà obligatoires ou déjà recommandés.
Mais ces 11 vaccins, ça signifie combien d'injections ?
10 injections. 10 injections, certains sont regroupés, comme la question de monsieur l'indiquait. Par exemple, il y a un vaccin dit hexavalent, c'est-à-dire qui contient 6 valences qui sont administrées le même jour, c'est-à-dire à 2 mois et répétées à 4 mois, et à nouveau à 11 mois. Dedans, il y a diphtérie, tétanos, polio, mais aussi coqueluche, hémophilus B et hépatite B. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé depuis plusieurs années. C'est une façon d'économiser le nombre d'injections et de vacciner, on le sait depuis plusieurs dizaines d'années, à la fois de façon sûre, efficace et durable, ces nourrissons contre ces 6 maladies infectieuses. Donc il n'y a pas lieu de déstructurer cet ensemble.
Véronique Julien.
Cela dit, on peut s'étonner qu'on ne trouve que des vaccins regroupés à l'époque où, juste l'année dernière en fait, où on pouvait être vacciné que pour le DTP, on ne trouvait pas ce seul vaccin limité à 3 valences, à 3 maladies. Comment ça se fait ça?
La raison principale, c'est justement ce que je viens d'évoquer, c'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui est faite à tous les pays du monde pour favoriser la vaccination. Et le fait que regrouper les vaccins permet, dans une seule injection, de vacciner plus, donc d'être plus efficace. Cela dit, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites, même si c'était pas toujours facile. Il était encore possible lorsque les demandes étaient vraiment faites, et en fait, dans la réalité, elles n'étaient pas si pratiquées si fréquemment, ces demandes, de vacciner contre les 3. Mais ça n'a aucun sens. Les vaccins qui y sont associés, je le répète, c'est très important. La vaccination contre l'hémophilus, qui est une bactérie qui donne des méningites très graves, contre la coqueluche, qui peut tuer les petits bébés, contre l'hépatite B, dont l'effet protecteur vient pour plus tard, mais il y a encore 1200 morts par an chaque année de complications de l'hépatite B en France. Le fait de pouvoir vacciner très tôt ces jeunes enfants contre ces microbes, virus ou bactéries, est fantastiquement utile, sauve des vies et doit être pratiqué.
Et puis intervention à Valence dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche de Lise Barnéo, je rappelle, journaliste scientifique qui a publié « Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins ». Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voulais revenir effectivement sur cette question du vaccin qui contiendrait uniquement les valences diphtérie, tétanos, polio. Donc effectivement, je complète le docteur Fischer. Ce ne sont pas les vaccins qui évitent le plus de séquelles aujourd'hui en France. En réalité, c'est uniquement un héritage historique. C'est trois vaccins qui étaient jusqu'à l'année dernière obligatoires. Mais il faut quand même souligner que c'est ce qui a finalement déclenché toute l'affaire et c'est ce qui a déclenché aussi le changement de loi, parce que en 2016, le Conseil d'État demandait au gouvernement de se mettre en cohérence sur la présence de trois vaccins obligatoires dans les lois et l'impossibilité de ne trouver que ces trois vaccins sur le marché. Et c'est cette impossibilité de trouver uniquement une formulation à trois qui a obligé finalement le gouvernement à choisir entre deux options qui étaient soit lever toutes les obligations, soit au contraire les étendre à tous les vaccins pédiatriques.
Alors je résume les courriels qu'on reçoit, il y a un thème qui revient régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les enfants désormais? Est-ce qu'il faudra fournir des papiers de vaccination? Sinon il n'y aura pas d'inscription dans les écoles, Véronique Julien?
C'est inscrit dans le carnet de santé, il faudra faire les 11. Le professeur Fischer le disait, aujourd'hui déjà plus de 70% des bébés sont vaccinés sur ces 11 vaccins. Donc voilà, il y aura le tampon sur le carnet de santé qu'il faudra montrer au directeur de la crèche ou de l'école maternelle.
Mais les parents qui disent non, qui refusent, qu'est-ce qui va se passer pour eux?
Alors, le gouvernement a dit qu'il ne serait pas très sévère. On s'expose à des amendes, mais c'est un peu compliqué. Je pense que dans un premier temps, ce ne sera pas très coercitif.
Les enfants peuvent être
rejetés de l'école. Le directeur peut refuser de les accueillir.
Professeur Fischer.
Il est légitime qu'un enfant qui ne soit pas convenablement vacciné ne puisse fréquenter une collectivité, parce que s'il y a plusieurs enfants non vaccinés ou des enfants fragiles, certains de ces vaccins ne peuvent pas leur être administrés, il y a un risque de contamination. Donc ceci n'est pas acceptable. C'est absolument la logique d'une politique de protection de l'ensemble d'une population. Et déjà aujourd'hui, avec diphtérie, tétanos, polio, il fallait montrer le carnet de santé avec la vaccination. Donc ça ne change pas grand-chose de la situation actuelle, à vrai dire.
Lise Barnéo, à Valence.
Oui, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose à la situation actuelle parce que, comme on l'a dit, plus de 80% des enfants ont déjà ces 11 vaccins. Mais je crois quand même qu'il va y avoir une grosse difficulté là ces prochains mois pour les directeurs de crèche et les directeurs d'école maternelle qui seront, eux, dans l'obligation de faire ce tri. Et j'ai déjà eu des retours de directeurs de crèche qui se demandent bien comment ils vont réaliser cette sélection, en fait.
Alexandre est en ligne avec nous au standard, bonsoir.
Oui, bonsoir, Alexandre de Paris 14. Ma question, c'est quelle est la différence entre un bébé né un 30 décembre 2017 et un autre né le 1er janvier 2018 sauf qu'ils ont presque un an d'écart au niveau civil, mais au niveau vaccination, il y en a un qui aura 3 vaccinations et l'autre qui aura ses 11 vaccinations obligatoires.
Alain Fischer, professeur Fischer.
Oui, sur un plan légal, vous avez raison, mais sur un plan pratique médical, non. Parce qu'il est hautement souhaitable que les deux enfants, de la même façon, reçoivent les 11 vaccins. C'est ça qui compte. Et je voudrais juste revenir un instant en arrière sur les questions de faut-il punir les parents. L'objectif n'est pas de pénaliser des parents qui se posent des questions. C'est de leur faire comprendre l'importance de cette vaccination, donc de faire tout ce qui est possible pour dissuader d'une attitude négative. Par contre, les médecins qui se prêteraient à la pratique hautement répréhensible de la rédaction de faux certificats, alors seraient certainement à risque d'avoir des difficultés.
Véronique Julia.
La question, c'est est-ce qu'on fait comprendre par la coercition? C'est une vraie question.
Alors, c'est un pari. Le pari, c'était ou la coercition ou de ne plus avoir d'obligation du tout dans un contexte où les enquêtes d'opinion montraient qu'une fraction non négligeable de l'ordre de 15% des parents étaient dans cette condition prêts à renoncer à toute vaccination. Donc, une prise de risque juste inacceptable. C'est un pari. Il n'y a pas de solution parfaite. Mais en même temps, annoncer fortement, solennellement, qu'un pays s'engage par l'obligation sur la nécessité de vacciner les jeunes enfants et une façon de marquer que cela est très important.
Il y a une question qui revient très souvent, cette mesure, les 11 vaccins obligatoires, est-ce qu'elle est rétroactive?
elle n'est pas, à ma connaissance, rétroactive. Néanmoins, sur un plan médical, je ne me place pas sur un plan juridique, sur un plan médical, il est hautement souhaitable que des enfants qui n'auraient pas reçu en temps et en heure les vaccins voient leur vaccin effectué, même si c'est un peu plus tard. C'est les protéger.
Lise Barnéou.
Oui, sur la question de Véronique Julia, le choix entre la coercition et au contraire la pédagogie, enfin même si évidemment j'espère qu'il ne faut pas opposer les deux. Je voudrais souligner que ces dernières années, si on s'en tient uniquement au pourcentage d'enfants vaccinés, sur les 11 vaccins, toutes les couvertures sont en augmentation. Donc certes, il y a une méfiance et je ne nie pas l'ampleur de la méfiance en France, mais je crois que cette méfiance, elle est essentiellement alimentée. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui est ressorti tout au long de mon enquête auprès des parents pour écrire ce livre. Cette méfiance, elle est essentiellement alimentée par le manque d'information, par le manque de transparence. Et moi, personnellement, je crains que le côté contrainte, obligation n'aille en réalité à l'inverse de ce qui est souhaité.
Professeur Fischer.
Non, je ne le crois pas. Bien sûr, on ne peut être sûr de rien a priori. Je ne le crois pas. À nouveau, c'est marquer très fortement l'importance de cette politique de santé que d'affirmer que cette vaccination doit être effectuée pour les jeunes enfants concernant ces 11 maladies infectieuses graves. Par ailleurs, pour ce qui concerne la rougeole, le taux de couverture vaccinale, si on veut être très précis, n'est loin d'être en augmentation. Il est à 79% pour ce qui est du rappel. C'est très insuffisant. Il y a eu dans les 5 dernières années de nombreux cas, surtout en 2011-2012, un très grand nombre de cas de rougeole, certaines d'entre elles très graves et mortelles. Donc il faut faire très attention.
Martine est à Verrières-le-Buisson et nous écoute. Bonsoir Martine, bienvenue sur l'antenne.
Bonsoir, merci de prendre mon appel et puis meilleurs vœux à vous. Je voulais un peu modérer les propos du professeur Fischer parce que je suis la maman d'une jeune femme qui maintenant a 25 ans, qui a été vaccinée alors qu'elle était, c'était un bébé prématuré de 6 semaines avec un très faible poids et nous avons eu de gros problèmes, à savoir des suites de vaccination faite très tôt, donc sur un tout petit bébé de petit poids, et donc elle a maintenant un problème de rein. Et donc deux professeurs, deux pédiatres nous ont bien dit que les symptômes étaient apparus juste après une vaccination, et il serait peut-être bien de penser pour certains enfants à des micro-vaccinations. Donc là, quand j'entends dire que c'est le miracle, que c'est merveilleux, etc., je me demande pourquoi en 2018 maintenant, on n'est pas capable, sur des petits nourrissons, de faire des micro-vaccinations, quitte à faire revenir les parents un petit peu plus souvent, mais au moins les rassurer.
Professeur,
pourquoi ne fait-on pas ça ?
On va vous répondre, le professeur Alain Fischer, je rappelle, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie.
Alors, un témoignage et une souffrance doivent être éminemment respectés, et je respecte bien sûr les difficultés que rencontrait à travers cette fille, cette maman, mais c'est un témoignage et on ne peut pas fonder l'expertise scientifique sur un seul témoignage, même si, je l'espère, cette situation de cet enfant dont parle la maman a été évaluée très sérieusement, comme c'est de règle le cas. Ce que l'on peut dire, se fondant d'une manière générale, globalement, sur les études scientifiques, sur les enquêtes épidémiologiques, c'est que la vaccination faite tôt chez nourrissons, y compris chez les prématurés. Il faut savoir que les prématurés sont encore plus à risque qu'un enfant né à terme d'une infection grave. La coqueluche est plus grave chez l'enfant prématuré que chez l'enfant né à terme. Les méningites sont plus graves, etc., etc. Donc on sait très bien, et les recommandations à l'échelle mondiale sont tout à fait claires, qu'il faut protéger tôt les nourrissons, y compris les prématurés, et que ce que je pense vous appelez une micro-vaccination, j'imagine, ça serait d'administrer des toutes petites doses du vaccin, malheureusement, n'est pas efficace. Et l'on sait très bien que le système immunitaire des bébés, y compris des bébés prématurés, est suffisamment fonctionnel pour répondre efficacement à ces vaccins.
Courriel de Gilles, j'aimerais savoir pourquoi les autorités de santé ne prennent pas plus au sérieux les risques pour la santé des adjuvants à base d'aluminium. Professeur Fischer, c'est pour vous.
Le sujet de l'aluminium, oui. Qui est un sujet dont on entend beaucoup parler en France.
Oui, ça revient souvent ce soir dans les questions et les courriels.
Je n'en suis pas surpris. Il faut quand même savoir, et il est important de le rappeler, que si une telle émission avait lieu dans un pays limitrophe, je ne sais pas, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, on n'en parlerait pas. C'est une polémique franco-française. Or, il faut savoir que l'aluminium...
Elle vient d'où, cette polémique?
Parce qu'il se trouve qu'il y a un médecin chercheur français, donc ce qui explique que ça se passe en France, que ça a plus de poids en France, qui a émis une alerte sur un risque possible d'adjuvant à base d'aluminium comme facteur de risque de maladie.
Il s'est trompé?
Laissez-moi développer un
petit peu. À l'hôpital Henri Mondor.
Henri Mondor, on peut donner son nom. Il s'appelle Romain Guérardi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça mérite deux minutes, excusez-moi, d'explication. C'est le genre de question, on ne peut pas répondre blanc-noir.
D'accord.
Et ça mérite un tout petit peu plus de développement. Donc, cette alerte vient de France, mais elle ne vient que de France, pratiquement. La quasi-totalité des cas de complications supposés liés à la vaccination comprenant des adjuvants aluminiques ont été décrits en France, plus de 80-90%. Or, nous utilisons dans le monde entier, de la Suède à l'Australie, du Japon aux États-Unis, les mêmes vaccins contenant le même aluminium qui est utilisé depuis 1926, 90 ans à peu près, un peu plus, dans des milliards, chez des milliards d'individus. Donc il y a une alerte, cette alerte a été largement étudiée par les autorités scientifiques mondiales qui à ce jour n'ont pas retenu à travers toutes les données disponibles, de liens entre adjuvants aluminiques et maladies qu'on appelle myofasciite, syndrome de fatigue chronique. En tout état de cause, même s'il existait un petit risque, ce qui est largement discutable. Mais imaginons, prenons l'hypothèse la plus pessimiste, l'importance de ce risque, mise en comparaison avec les bénéfices énormes de tous les vaccins dont on parle, font qu'il n'y a pas de discussion possible sur l'intérêt et la nécessité de poursuivre de vacciner, pour l'instant, en tous les cas, avec des vaccins qui contiennent des adjuvants aluminiques, parce que pour changer d'adjuvant, il faudra des années et des années. Donc il était important de rappeler cela de façon détaillée.
Lise Barnéou, à Valence.
Oui, je pense que l'exemple de l'aluminium montre à quel point on aurait vraiment besoin d'ouvrir de manière transparente les controverses en France plutôt que de prendre l'option de les mettre sous le tapis en se disant moins on en sait, plus la confiance sera élevée. En réalité, si on regarde dans le détail cette controverse, on peut déjà accepter qu'il y a un consensus et qui est assez nouveau, c'est qu'un petit pourcentage de la population conserve les particules d'aluminium au niveau du site d'injection du vaccin. Ça fait comme une cicatrice, c'est ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage, parce que c'est dans le muscle et les inclusions d'aluminium sont dans les macrophages, les cellules immunitaires. Et ensuite, ce qui fait débat actuellement, c'est est-ce que ces particules d'aluminium restent à l'état de cicatrice sans aucune influence sur l'organisme, ou bien est-ce que chez certains individus, ces particules pourraient migrer, notamment dans le cerveau, et entraîner des symptômes, et notamment la fatigue chronique qu'étudie Romain Guérardi. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on a toujours tendance à mettre les controverses sous le tapis en se disant que le moins on en parle, moins ça fait peur. Et au contraire, quand on accepte de rentrer dans le détail, même Romain Guérardi reconnaît que si ce lien de causalité existe, il concerne un pourcentage infime de personnes et probablement de personnes prédisposées. Donc on aurait tout intérêt à ouvrir de manière tout à fait transparente tous ces débats.
Si je peux me permettre, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce débat n'est pas caché, puisqu'il est présent sur la place publique depuis des années, ça fait 20 ans que ça dure, plus particulièrement ces dernières années. Il est très largement présent et présenté dans les médias, à mon avis de façon excessive par rapport à ce qu'il est dans le monde scientifique, où il faut savoir que 99% des spécialistes de la vaccination, des maladies infectieuses, la toxicologie, etc., ne sont pas convaincus par les arguments de Romain Guérardi. Donc il faut remettre les choses à leur place. Il n'y a rien de caché, tout est transparent. L'Agence nationale de la sécurité des médicaments a donné des avis sur cette question à plusieurs reprises, enregistre à chaque fois que c'est présenté des cas supposés de cette complication. Mais néanmoins, je répète que les conclusions au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé, les autorités scientifiques françaises, les académies de sciences, de médecine, etc., globalement, sont d'accord pour penser qu'il n'y a pas pour l'instant d'argument convaincant en ce sens d'établir un lien entre aluminium et les complications évoquées.
Pour ou contre les vaccins? Alors beaucoup de courriels, la polémique bat son plein sur le site de l'émission. Ce courriel de Gérard qui nous dit il y en a assez des groupes obscurantistes qui prennent prétexte de leur liberté mais qui mettent en danger la santé ou la vie d'autrui. Les vaccins protègent ceux qui les reçoivent. Et puis il y a aussi des courriels, des questions qui reviennent. Les vaccins ont-ils, oui ou non, des effets indésirables? Professeur Fischer.
Alors, premièrement, oui, les vaccins protègent. L'Organisation mondiale de la santé, que je cite beaucoup, mais enfin, c'est une autorité importante dans le domaine de la santé publique dans le monde, estime qu'environ 2,5 millions de personnes, chaque année, sont sauvées, vivent grâce à la vaccination.
Oui. Et on peut... Les effets indésirables.
J'y arrive tout de suite, oui. Mais il faut quand même les replacer. Et cette, notre discussion, elle est un tout petit peu une discussion de riche, parce que pendant ce temps-là, il y a encore 135 000 enfants qui meurent chaque, au moins, qui meurent chaque année de rougeole faute de vaccins dans le monde. Il faut aussi se souvenir de ces chiffres-là. Les effets indésirables. Les vaccins sont des médicaments. Tous les médicaments ont potentiellement des effets indésirables. C'est bien évident. Néanmoins, il faut ensuite être très précis sur ce que sont ces effets indésirables. Ce sont relativement fréquents de petits effets indésirables que sont une rougeur, une douleur, un petit peu de fièvre dans les 24 heures qui suivent une vaccination. C'est bien connu des pédiatres. C'est assez banal et ça se traduit. La question, c'est y a-t-il des effets indésirables graves ? De façon absolument exceptionnelle, il y a des allergies, qui peuvent être des allergies sévères. Cela existe, et il faut bien naturellement avoir cela en tête. Les médecins et les personnes qui vaccinent ont cela en tête. C'est exceptionnel. J'entendais récemment ma collègue pédiatre en charge des la protection maternelle infantile de Paris rappeler que sur un très grand nombre d'années, elle n'a observé qu'un cas d'allergie, encore pas extrêmement sévère, sur plus de 500 000 vaccinations. Il y a associé à la vaccination contre un virus de la grippe, une complication qui s'appelle la narcolepsie, qui survient de façon exceptionnelle. Il y a encore quelques cas très rares d'une maladie neurologique immunologique qui s'appelle la maladie de Guillain-Barré. Ce sont des choses avérées, qui ont été enregistrées, vérifiées, et qu'il faut connaître, mais cela s'arrête là pour l'instant.
Lise Barnéou, à Valence.
Oui, je crois qu'il est surtout important aujourd'hui d'essayer d'arrêter de parler de la vaccination dans sa globalité et d'étudier les avantages et les inconvénients vaccin par vaccin comme on le fait aujourd'hui pour les médicaments. Et les effets indésirables graves existent, certes, mais effectivement, leurs fréquences sont la plupart du temps inférieures à 1 pour 100 000 personnes vaccinées. Et oui. On peut les mettre en regard des effets indésirables graves des maladies hein, contre lesquelles les vaccins nous protègent. Et si je prends l'exemple de la rougeole qui paraît bénin pour la plupart d'entre nous. En réalité, il peut y avoir des complications graves pour entre une personne sur 1500 à 2000. Donc c'est un rapport 1000 de la différence.
La rougeole, est-ce vraiment si dangereux ? Je vous lis un courriel, on l'attrape une fois et on est immunisé. Pourquoi un vaccin, professeur Fischer ?
Madame Barnéou vient de répondre très, très précisément. C'est que malheureusement, une fois sur 1000 environ, la rougeole devient une maladie grave. Et on a observé donc dans les 6-7 dernières années en France, 25 000 cas déclarés de rougeole, 5 000 hospitalisations, environ 1500 pneumonies. 30 personnes ont développé des complications du cerveau, ce qu'on appelle des encéphalites, et une vingtaine sont décédées de cette maladie. Donc malheureusement, pour quelques cas, et en particulier pour les personnes fragiles immunodéficientes, qui ne peuvent pas bénéficier directement du vaccin, donc qui sont protégées par leur entourage vacciné, d'où l'importance de l'obligation en tant que mesure de protection collective, de solidarité. Donc dans ces conditions, la rougeole peut être une maladie grave.
Véronique Julien.
Il y a des questions qui se posent comme pourquoi faut-il vacciner contre l'hépatite B des nourrissons alors que le risque intervient plus tard dans la vie ?
Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement l'hépatite B est essentiellement une maladie sexuellement transmissible, donc une maladie de l'adolescent et du jeune adulte. Donc pourquoi vacciner si tôt ? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'un enfant était vacciné très tôt, l'immunité obtenue était durable, donc protégée très longtemps. Pour la vie, en fait. On a moins besoin de vacciner contre l'hépatite B que ce qu'on a pensé il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc cette vaccination fait précocement, au moins on est sûr qu'elle est faite. Actuellement, c'est un tout petit peu moins de 90% des enfants qui sont vaccinés. Il faudrait monter un petit peu, mais c'est déjà pas mal. Cette vaccination, elle est sûre, elle va protéger ces enfants lorsqu'ils seront devenus des adolescents, lorsqu'ils seront des adultes. Et ceci est important, car je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important, l'hépatite B tue. 1200 personnes par an en France meurent de cancer ou de cirrhose du foie secondaire à une infection par le virus de l'hépatite B. Il n'y a actuellement que seulement 40% des adolescents, des jeunes adultes qui sont protégés.
On a un appel.
D'où l'intérêt de vacciner tôt.
Un appel de Jean-Yves au standard du téléphone sonne. Bonsoir Jean-Yves.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais apporter d'abord merci de me prendre en ligne et puis bravo pour la qualité de vos émissions que j'écoute régulièrement et je suis ravi de pouvoir intervenir pour amener un éclairage un petit peu atypique peut-être mais qui reflète parfois aussi un manque d'interdisciplinarité puisque je suis vétérinaire et je voulais témoigner moi du coup de l'efficacité des vaccins et de l'importance de la couverture vaccinale d'une population, que ce soit une population de veau ou une population humaine, l'importance est la même, et sans les vaccins, on serait fort démunis et des centaines, voire des milliers, voire des millions d'animaux mourraient comme des milliers de gens meurent si on n'a pas une protection efficace. Et les effets secondaires sont effectivement extrêmement restreints. La première question qu'on pose quand on est face à une épidémie et qu'on se pose avec un éleveur notamment, c'est quel est le microbe en place et quel vaccin, est-ce qu'on a un vaccin à notre disposition pour pouvoir stopper cette évolution du microbe. Donc voilà, c'était vraiment simplement témoigner de l'importance d'efficacité des vaccins
et de l'efficacité du vaccin. Merci Jean-Yves. Des courriels, ces vaccins qui sont désormais obligatoires vont-ils augmenter le risque de mort subite chez les tout petits, professeur Fischer?
Malheureusement, un médecin chercheur relativement renommé a remis sur le tapis cette notion récemment. Ceci est absolument inexact, a été démontré par un grand nombre d'études scientifiques publiées, corroborées. La mort subite du nourrisson n'est pas provoquée par la vaccination. Et une mesure qui a été prise il y a un certain nombre d'années a été un grand progrès, c'est de coucher les bébés sur le dos et non plus sur le ventre. Ça, c'était un facteur de risque. Il reste malheureusement des morts subites qui ne sont pas complètement expliquées, mais aucun lien n'a pu être montré entre vaccination et mort subite. Évidemment, les deux types d'événements surviennent à peu près dans la même période de vie, dans la première année de vie. Mais c'est toute la discussion et la nécessité d'être très prudent dans le risque de confusion entre coïncidence temporelle et causalité. Il n'y a pas de lien de causalité.
Lise Barnéou veut intervenir.
Oui, cette controverse sur les morts subites, elle a émergé en Allemagne dans les années 2000 quand on a introduit le vaccin hexavalent, où il y a eu effectivement 3 ou 4 cas notifiés de morts subites juste après ce vaccin. Et donc a été menée une enquête qui malheureusement a été coupée au milieu d'ailleurs, parce que le vaccin hexavalent qui était incriminé a été retiré entre-temps. Mais ce qui ressortait de cette étude menée par l'équivalent de Santé publique France en Allemagne, c'est que l'éventuel sur-risque qui pouvait exister, il existait uniquement dans la deuxième année et il était inférieur à un cas sur 4 millions de vaccinés durant la période analysée.
Alice dans les Hauts-de-France est avec nous. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
On vous écoute. Allez-y, vous êtes sur l'antenne.
Alors,
Alice.
Voilà, merci. Je voulais savoir si le coût de ces 11 vaccins obligatoires avait été évalué. À combien ça va revenir pour rendre obligatoires ces 11 vaccins?
Qui veut répondre, professeur Fischer?
Je veux bien répondre. On pose souvent la question du surcoût et parfois, je ne prétends pas que ce soit ce que pense cette femme qui souhaite témoigner, mais on pense parfois, en évoquant cette question, au fait que rendre obligatoire ces vaccins, c'est favoriser les bénéfices de l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas être naïf à l'égard de l'industrie pharmaceutique, mais dans le cas présent, ce n'est certainement pas le cas, puisque le surcoût que représentera, en espérant donc que les enfants soient couverts à 95% par cette vaccination, c'est de l'ordre de 12 millions d'euros. C'est que quelques pourcents de l'ensemble du coût de la vaccination en France. Donc ce n'est pas une question financière. Ce d'autant que, en plus, cela évitera un certain nombre d'hospitalisations, de traitements compliqués, etc. etc.
Réaction colérique d'un auditeur de France Inter sur le site. Je voudrais juste dire que j'en ai marre d'entendre tous ces gens se méfier des vaccins. S'ils vivaient dans des pays sous-développés, ce seraient les mêmes qui râleraient, car il n'y aurait pas de vaccin pour sauver leurs enfants. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui nous offre la possibilité de protéger nos enfants. Et moi, je soutiens ce plan vaccinal. Autre remarque d'auditeur, là c'est Michel. Est-ce que ces vaccins menacent le système immunitaire des jeunes enfants? Et les questions toujours, hein,
bien sûr,
Fischer.
Mais il est légitime que les gens se posent ces questions et il est évidemment légitime d'y répondre. Oui. Surtout que ces informations sont connues maintenant depuis longtemps, puisque, je le répète, ces vaccins ne sont pas nouveaux. Certains d'entre eux ont 70 ou 80 ans d'âge et les plus récents ont quand même 20 à 30 ans de d'âge. Enfin, donc nous avons ce recul. Donc nous savons très bien que le système immunitaire est tout à fait développé à la naissance, pas complètement, mais il est suffisamment développé pour que les petits bébés fabriquent des anticorps, développent leur réponse immunitaire et répondent efficacement et de façon sûre, je le répète, contre les microbes à l'égard desquels ils sont vaccinés. Et on sait aussi très bien que le fait de les vacciner n'empêche pas de développer une réponse immunitaire contre un autre microbe contre lesquels ils ne sont pas vaccinés. Autrement dit, ça n'affaiblit pas du tout leur défense, d'aucune façon.
Véronique Julia ?
Non, je pensais à des gens qui ont des maladies auto-immunes, par exemple, qui se retournent contre eux. Est-ce que ces gens-là, il faut mieux éviter de les vacciner ? Je pense à des jeunes filles, par exemple, pour le papillomavirus.
Alors, ça ne concerne pas du tout, bien sûr, la vaccination qui est aujourd'hui obligatoire. Mais merci de poser une question sur le vaccin contre le papillomavirus, parce que c'est une vraie...
Qui n'est pas obligatoire. Qui concerne que les adolescentes.
Mais il est important d'en dire un mot, parce que c'est un vaccin relativement nouveau, mais enfin, qui a quand même maintenant quelques années d'âge et qui est en train de s'améliorer, est un vaccin qui protège contre le cancer du col de l'utérus, mais aussi les cancers oropharyngés et les cancers anaux. Il y a 3000 cas de cancer du col de l'utérus par an en France et environ 700 à 800 décès. On sait que les vaccins dont on dispose aujourd'hui, il y a des publications récentes qui le montrent, protègent à peu près, devraient protéger contre 90% des cas de cancer du col de l'utérus. Et que ce vaccin est sûr, notamment il y a eu une très grande enquête épidémiologique en France qui montre qu'il ne provoque pas d'excès de maladies auto-immunes. Contrairement à ce qu'on avait à un moment pensé, il développe un tout petit risque extrêmement faible de maladies neurologiques qu'on appelle la maladie de Guillain-Barré, mais pas de maladies auto-immunes. Mais malheureusement, c'est mon dernier mot sur cette question, seulement moins de 20%, 16% des jeunes filles en France sont vaccinées, contre 80% dans les pays limitrophes du Nord. C'est très regrettable et c'est un risque pour l'avenir.
Je vous lis les courriels que nous recevons. Je suis pharmacien et au cœur de la dispensation de la vente des fameux vaccins devenus à ce jour obligatoires, ma position est claire, je suis pro-vaccin, j'estime la position des lobbies anti-vaccins criminels. Pour autant, le caractère obligatoire me dérange s'il n'est pas accompagné, au moins au préalable, d'une vaste campagne d'information thérapeutique populaire. Professeur Fischer, c'est ce qui manque peut-être, une campagne d'information très développée.
L'obligation me dérange aussi. Je rêverais ce soir, lorsque je parle de vaccination, d'être suédois, parce qu'en Suède, ou en Grande-Bretagne, la population suédoise, si je reste à la Suède, a confiance en la vaccination. 95% des enfants sont vaccinés. Il n'y a pas de discussion avec la vaccination. Aucun homme politique se permettrait d'émettre des jugements anti-vaccins. Mais ce niveau de confiance, nous ne l'avons pas dans notre pays. Donc malheureusement, en attendant, il faut agir par l'obligation. J'en suis désolé, ça serait mille fois préférable de reposer uniquement sur l'information, l'adhésion et la confiance. J'espère qu'on va y arriver. Bien évidemment, cette obligation doit s'accompagner, après tout c'est ce qu'on fait un tout petit peu ce soir, mais qui se fait par toutes sortes d'autres relais, de campagnes d'information très précises, qui doivent être totalement transparentes, objectives, apportant les informations sur les bénéfices et les tout petits risques de la vaccination.
Lise Barnéou à Valence.
Oui, je voudrais effectivement souligner qu'il n'y a aucun lien, si on regarde les pays voisins, entre le caractère obligatoire et le taux de vaccination en Europe. Et encore une fois, moi, j'interroge du coup ce choix de l'obligation. Pourquoi la France serait, les Français seraient tout à fait à part dans leur manière de procéder ? Est-ce que la contrainte fonctionne chez nous et pas chez les autres ? Et je me demande pourquoi on en est venu à ce choix-là, alors même que la concertation citoyenne sur la vaccination que Monsieur Fischer a présidé. Si on s'en tient au jury des scientifiques, il s'était prononcé en défaveur de l'extension de l'obligation. Le jury des citoyens n'arrivait pas à trancher, c'était 50-50. Quant à la consultation sur Internet, les occurrences qui étaient le plus souvent associées et qui revenaient le plus fréquemment, c'était la négation suivie de l'obligation. Donc on peut aussi imaginer que les consultations par Internet était plutôt en défaveur de l'extension.
Je suis obligé d'intervenir brièvement pour réagir parce que c'est
beaucoup de temps.
C'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de jury de scientifique, c'était un jury de professionnels de santé non spécialisé. Et d'autre part, la concertation citoyenne, c'était des jurys et une concertation, si je puis dire, une discussion des jurys avec un comité. Et il y a eu un débat extrêmement intéressant entre les membres du jury et le comité d'orientation qui, de façon quasi unanime, avec les jurys, a conclu que l'obligation était le moindre mal. Pourquoi une obligation en France et pas en Suède, mais aussi une obligation en Italie, par exemple, qui est confrontée à la même situation que nous, c'est parce que, pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer maintenant avec le temps imparti, mais en France, il y a, depuis des années, s'est installée une défiance qui n'existe pas dans les pays du nord de l'Europe, et il faut faire face à cette défiance, à la menace qu'elle représente sur la protection de nos enfants contre les maladies infectieuses.
Philippe à Nantes, bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir. Voilà, moi, il me semble difficile, je vais essayer de faire court, il me semble difficile de séparer la question de la vaccination de la question du rapport à la santé en général. Et je pense que là, la dimension sociale et culturelle est particulièrement importante à prendre en compte. Je pense que dans notre société, il y a des catégories de groupes sociaux qui ont un rapport assez éloigné, on va dire, à la santé en règle générale, à la vaccination en particulier. On sait que les femmes sont plus sensibles. Et là, il y a aussi une autre barrière qui vient se greffer à ça, c'est la dimension culturelle, c'est-à-dire qu'on a des gens du voyage pour qui la dimension de la vaccination est très problématique. Les migrants actuellement dont on parle sont également dans ce rapport-là à la santé. Donc la question, c'est comment on peut évidemment améliorer, si vous voulez, le discours sur la vaccination que j'entends là, oui, auprès de ces populations qui ont un rapport très distancié, voilà.
Alors, professeur Fischer.
Oui, de façon un peu plus large, je pense que ça la rejoint la question précédente. Nous avons en France, je parle de toute la population et des professionnels de santé en premier, une difficulté avec la prévention en santé. Nous avons une difficulté avec la prévention dans le domaine de la vaccination, mais dans d'autres domaines. On pourrait penser au tabac, à l'alcool ou à d'autres ravages de la santé publique. Alors, votre question concernant les populations précaires est très importante. Il sera extrêmement important, il y a une nécessité d'une action forte pour permettre d'approcher le mieux possible ces populations, de les protéger. Ils ont besoin d'être protégés, ils sont très fragiles et ils sont certainement en première ligne dans les nécessités de vaccination en allant avec eux, auprès d'eux et avec des centres de santé ad hoc.
Question, plutôt un témoignage de François sur le site de l'émission. J'ai eu la polio en 1956, juste avant que le vaccin n'arrive en France. J'en ai gardé des séquelles, je marche en boitant, d'autres sont restés gravement handicapés. Si j'avais été vacciné, j'aurais évité ça. Et puis cette question d'un auditeur sur le site, cette mesure 11 vaccins obligatoires, est-ce parce qu'on assiste à une offensive des maladies infectieuses ? Professeur Fischer.
Non, il n'y a pas une offensive des maladies infectieuses, mais les menaces sont présentes, latentes ou pas latentes, même pour les maladies qui ont aujourd'hui disparu de France, comme la poliomyélite dont on parlait il y a un instant. Il y a encore des cas de poliomyélite dans le monde, même s'il y a un objectif d'éradication, j'espère qu'on y arrivera. Mais tant qu'il y a des cas de poliomyélite dans le monde, si on arrêtait de vacciner contre la poliomyélite en France, on verrait un jour ou l'autre réapparaître des cas de poliomyélite. Mais donc c'est une menace latente contre laquelle il faut lutter et éviter que des infections qui aient disparu ou qui sont présentes mais à faible taux, prennent plus d'ampleur, faute de vaccination.
Ce courriel, je suis médecin gériatre. Je n'arrive pas à convaincre mes infirmières de se vacciner contre la grippe, ce qui est recommandé, mais non obligatoire pour le personnel soignant. Il est difficile de faire comprendre les raisonnements de santé publique. Et c'est pour cela que j'apprécie que des vaccins deviennent obligatoires. Le mot de la fin, c'est pour vous, professeur Fischer.
Je partage, et le mot de la fin, c'est de dire que les professionnels de santé doivent montrer l'exemple, doivent se vacciner, doivent donc être exemplaires à l'égard de leurs patients et des personnes qu'ils sont amenés à vacciner ou à faire vacciner.
Merci à nos invités, le professeur Alain Fischer, Lise Barnéou dans les studios de France Bleu Drôme à Valence et Véronique Julien. C'était le téléphone sonne.